Chers amis, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans notre système de conférences de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous allons voir aujourd'hui un sujet très intéressant que nous allons chercher et approfondir aussi. Il s'agit du contenu gnostique et ésotérique se trouvant dans la pierre du soleil, plus connue sous le nom de calendrier aztèque, n'est-ce pas? Cette pierre du soleil, ce calendrier aztèque, est très intéressante parce qu'en elle sont réunies la science, la philosophie, l'art et la religion. C'est un groupe complet de ces disciplines. Il va sans dire que ceux qui sculptèrent cette pierre du soleil étaient des véritables sages, des personnes illuminées, des personnes éveillées en pleine conscience. Elles réussiraient à donner dans cette sculpture connaissance d'écologie, d'anthropologie, des sciences, de psychologie, d'astronomie et d'anthropogénèse. Et surtout, et plus de toutes ces sciences réunies ici, elles réunissaient à montrer magistralement les chemins qui doivent nous conduire à la libération finale à travers ces grandes sculptures. Nous pouvons voir donc ici, mes chers familles, écrites sur ces pierres, les sentiers, les chemins conduisant à la lumière, à la vérité. Pour celui qui a des oreilles pour entendre, et qui a des yeux pour voir, voir. En accord avec notre niveau spirituel, notre niveau de lettré, nous allons pouvoir comprendre les enseignements profonds enfermés dans chaque figure, dans chaque symbole de cette pierre extraordinaire et merveilleuse que nous laissèrent nos ancêtres. Ici, nous est montrée l'histoire de l'humanité. Ici se trouvent les forces et les influences qui nous gouvernent. Ici se trouve le chemin que nous devons emprunter pour enfin mettre fin à nos souffrances et nos douleurs. Voilà tout ce qui se trouve dans cette pierre merveilleuse, la pierre du soleil. Au centre de cette pierre du soleil extraordinaire, nous pouvons voir Tonatiuh. Et Tonatiuh se traduit par lumineux. C'est lui qui réchauffe. C'est lui qui réchauffe. Il est certain que tous nos anciens, nous anciens peuples de cette époque de splendeur, dans cette époque de splendeur, dans cette époque de splendeur où les sacrifices humains n'existaient pas, dans cette époque où les sentiers sur lesquels marchaient les traits humains n'étaient pas erronés, ces anciens peuples essayèrent de montrer et d'exprimer de façon manifeste les non manifestés, les traits. La divinité. Dieu, le grand architecte de l'univers, le demiurge créateur, les Elohim, les Prahapatis, Sat, ou comme nous voudrons les nommer. Les maîtres, pour pouvoir les représenter, se réfèrent à ce qu'ils avaient de plus proche et beaucoup furent d'accord, et différents peuples de l'humanité, de notre planète Terre, et beaucoup furent d'accord pour donner l'attribut du soleil à la divinité. Ils prirent les caractéristiques de quelque chose faisant partie de leur environnement qui s'en rapprocha le plus pour pouvoir expliquer des principes intangibles, comme cela qui n'a pas de nom, cela qui n'a pas d'arrivage, cela qui ne peut être défini. Et le soleil, de ce fait, est un bon exemple. Il nous donne les chaleurs, il nous donne la vie, le soleil nous illumine, le soleil nous réchauffe et donc est très semblable à cet aspect de l'être, de l'intime, de la divinité, parce qu'il nous donne la sagesse, parce qu'il nous donne l'amour, parce qu'il nous montre les sentiers qui nous conduisent vers la lumière. Alors, ces peuples, ces sages, associèrent donc la divinité avec le soleil. Tonatiuh est le dieu soleil, la représentation du verbe de Saint Jean. Il représente l'enfant d'or de l'alchimie, il représente l'aigle qui descend, le dragon de la sagesse. Il représente tout cela. C'est-à-dire, notre Père qui est en secret, celui qui n'a pas de nom ni de rivage, jamais. Celui dont on ne peut rien dire, car on le dénaturerait et lui enlèverait l'essentiel, c'est-à-dire la vérité. C'est Tonatiuh, chers amis, le demiurge créateur de l'univers, le verbe qui crée le tout. En premier lieu était le verbe, et le verbe était Dieu. Et sans lui, rien de ce qui est n'aurait pu être fait, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il apparaît décoré de berbe de Saint-Jean à la manière nahuatl, symbolisant merveilleusement l'aspect de la divinité ici, dans les symboles que nous allons déchiffrer maintenant. Nous allons commencer par la diadème. Nous voyons 12 siècles, nous avons cette couronne qui représente Keter. Dans la Kabbale hébraïque, Keter voulant dire couronne, qui signifie ce qu'il y a de plus élevé, car au-dessous de la couronne, il n'y a rien. C'est ce qu'il y a de plus haut. La diadème située par la partie supérieure du visage de nature représente donc l'ancien des jours. Les Aztèques considéraient la divinité non pas comme essentiellement masculine, comme dans la plupart des religions du monde, mais comme étant double, c'est-à-dire en tant que masculin et féminin. Ce qui veut dire que chaque symbole que nous voyons ici sur Tonatiu, sur cette divinité, sur ce dieu soleil situé au centre du calendrier aztèque, aura les attributs de la divinité. Ainsi, chez les Aztèques, Ometecutli, Omecihuatl, la dualité, qui sont les seigneurs, la déesse de la dualité, représentent les couples divins, duquel descendent tous les dieux chez les Aztèques. Ome signifiant deux. Ome, deux. Tecutli, seigneur. Et Ome, deux. Sihuatl, dame ou déesse. De ces couples divins viennent les quatre Tezcatlipoca, les quatre seigneurs divins de la création de tout l'univers. Nous parlons donc du Père qui est en secret et de la divine mère Kundalini des Orientaux. C'est le même principe existant dans chaque individu, dans chaque être humain. Et nous parlons d'Isis chez les Égyptiens. Si nous avons Dieu comme Père, représentant la sagesse, nous devons avoir sa contrepartie, son équilibre, qui serait Dieu comme mère, représentant l'amour. Sagesse et amour sont les deux colonnes principales qui doivent soutenir toutes les temples. C'est ce que représentent les deux cercles sur la diadème. Nous avons donc Dieu comme père et Dieu comme mère, représentés par ces deux petits cercles. Ce qui veut dire que chaque symbole que nous voyons ici sur Tonatiuh, sur cette divinité, sur ce dieu soleil, situé au centre du calendrier aztèque, aura les mêmes attributs de la divinité. Entre les deux siècles, nous pouvons voir un symbole extraordinaire, un symbole que nous pouvons voir dans tous les peuples du monde. À Teotihuacan, cité où les hommes se font Dieu. La pyramide du soleil a quatre sous-bassements. Et ces quatre sous-bassements représentent les tétragrammatons. Tétragrammaton sacré, Rek, est la divinité. Ce nom vient de tétra, qui veut dire quatre, rama, qui signifie lettre, les quatre lettres de mystère. Ce nom hébreu, tel qu'il est écrit dans des Bibles très anciennes, représente le nom de la divinité. Les fameux Yod-He, Ba-U-He, ces quatre lettres hébreux. Voilà les quatre mots, les quatre lettres hébreux, pour dessiner le nom de la vérité. C'est de là que vient le chiffre 4, sacré, 4, tétra, rama, ton, et nous l'observons ici. Avec trois plumes d'aigle, et au-dessous de ces trois plumes d'aigle se trouve une perle qui orne ce signe extraordinaire qui nous montre le chiffre sacré 3 plus 1, 4. Pourquoi y a-t-il trois plumes d'aigle ornées d'une perle? Parce qu'elles représentent la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les mêmes que Ter, Chokma et Vina de la Kavra hébraïque. Les mêmes Shipi Kakulha, Roaksa Kakulha et Kakulha dans les Popol Vuh des Mayas. Les mêmes Brahma, Vishnu et Shiva pour les Orientaux. Ils sont la triade divine. D'où vient la triade divine? D'où vient la Trinité? Elle émane de cela qui n'a pas de nom, de cela qui n'a pas de rivage, de cela qui n'a pas de racine, de cela qui est la racine de la matière et de l'esprit, mais qui n'est ni matière ni esprit non plus. C'est ce que nous appelons dans l'art gnos l'absolu. C'est ce qu'on appelle en sanskrit sat ou cela. parce que l'on ne peut pas dire autre chose de cela. Donc, l'unité d'où émane le tout, la Trinité, qui est le Père, le Fils, l'Esprit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est le 3, d'accord? Plus le 1, qui nous donne le chiffre 4, les 4 sacrés, les sacrés tétra, ramaton. Et c'est ce symbole qui est ici représenté sur le dessin, qui apparaît sur ou dans la diadème. Ensuite, sous la diadème, nous pouvons voir ses cheveux, de couleur jaune, parce qu'il représente le prana de la vie, l'énergie christique, l'énergie solaire merveilleuse par laquelle nous pouvons nous connecter à la divinité si nous apprenons à la transmuter. Souvenons-nous du mythe de Samson. Il perd tout son pouvoir lorsqu'on lui coupe sa chevelure. Dans l'ancien cabale, lorsqu'une femme était impure, lorsqu'une femme était adultère, pour le punir, on lui coupait les cheveux. L'énergie du nouveau solaire se trouve dans notre énergie créatrice, dans ces énergies qui nous donnent la vie. C'est pour cela que les cheveux que l'on voit ici, la représentante, sont jaunes. Étant donné que dans la race nahuatl, dans ces groupes humains, les cheveux jaunes n'existaient pas. Mais ici, ils représentaient de ces genres, de ces couleurs, parce que les cheveux représentent l'énergie créatrice. Autour de ces yeux, nous voyons quelques rides. Et c'est très intéressant que ton atu soit représenté comme un vieillard, comme une personne âgée, un ancien. Parce que chez les Aztèques, l'ancien, la personne âgée, était sacrée. De nos jours, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Nous mettons nos petits vieux dans des asiles ou des maisons de retraite parce que nous ne voulons pas nous en occuper. Nous les oublions la plupart des temps. Chez les Aztèques, ce n'était pas du tout le cas. Les anciens, les personnes âgées, c'était sacrés. Dès lors, il y avait le conseil des anciens qui était l'autorité suprême. Rien n'existait au-dessous d'eux comme autorité. C'était les anciens qui décidaient tout, et les rois et les prêtres devaient obéir et accepter leurs décisions. Les décisions de ces conseils merveilleux qui étaient les conseils des anciens. Parce que l'ancien est synonyme de sagesse, de connaissance. C'est pour cela que ton adieu apparaît ici comme un ancien. C'est lui qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout. Il possède l'omniscience, c'est-à-dire toute la sagesse, toutes les connaissances. Omniscience. C'est pour cela que nous devons, nous autres, demander de l'aide à notre Père qui est en secret, à notre intime, à notre esprit, à chaque fois que nous devons décider quelque chose, à chaque fois que nous avons un problème. Il faut nous plonger dans la méditation en silence, parce que c'est là que nous pourrons rencontrer notre Père. Et lui sait tout, lui voit tout, et il a toutes les connaissances, toute la sagesse. Il peut nous aider et nous guider sur le bon chemin. Voilà ce qui représente les rives que nous voyons sur son visage. Les yeux du Père forment les symboles, les sacrés 8. Ce qui veut dire, et qu'il voit tout, d'accord? Rien ne lui échappe, rien n'échappe au Père. En vérité, chaque pensée, chaque sentiment, chaque action sont surveillées, sont observées par notre Père qui est en secret. Nous pensons que nous pouvons échapper à la justice, n'est-ce pas? Oui, nous pourrions peut-être échapper à la justice de rien. Mais nous ne pourrons jamais échapper à la justice divine parce que nous la portons à l'intérieur de nous-mêmes. Cette justice divine se trouve en nous, dans notre intérieur. Et notre Père surveille tout ce que nous faisons. Nous achetons quelque chose dans un magasin et on se trompe sur la monnaie et nous en rendant plus que l'on ne devrait, alors on ne dit rien. On s'en bat comme si rien n'était. Eh bien, le Père enregistrait tout cela. Chaque pensée de luxure, chaque pensée négative, chaque émotion, tout est surveillé, tout est observé par notre Père qui est en secret. C'est lui qui possède la sagesse totale. Voilà ce qui représente cette partie des jeux de ton nature. Nous voyons une suite en symbole très intéressante, la NES. Il y a un symbole double, trois plumes d'aigle sur le côté gauche et trois plumes d'aigle sur le côté droit. Ceci peut représenter le fameux sceau de Salomon ou l'étoile de David. L'étoile de David est formée par deux triangles, un qui pointe vers l'autre, représentant le feu ou l'homme, et l'autre qui pointe vers les vases, représentant le ou la femme. Les deux réunis ensemble forment le sceau de Salomon. C'est un symbole extraordinaire. Les anciens kabbalistes et les anciens alchimistes disaient que les colonnes des démons tremblaient devant ce symbole. C'était un symbole de protection. Mais bien sûr, il faut savoir le comprendre. Voyons. Quand la femme et l'homme s'unissent par amour, lorsque un homme et une femme sont unis par cette substance merveilleuse de feu de l'amour, rien ne peut le vaincre. Personne ni rien ne peut le vaincre et faire de mal. Et là, nous voyons la relation qu'il y a entre les nefs, l'air, les souffles de vie et ces sceaux merveilleuses de Salomon. Les écrits du Tibet et de l'Inde, dans les écoles tantriques, dans les écoles des mystères de la suprasexualité, nous montrent que cette suprasexualité est une étroite relation avec le souffle, avec la respiration. Et c'est pour cette raison que ne peut manquer les chiffres 6 qui, dans la Kabbale hébraïque, représente l'amoureux. Ce qui indique qu'il faut apprendre à transmuter, transformer, pour en profiter de ces énergies créatrices. Qu'il faut apprendre à les améliorer, à en profiter. C'est ce que nous montrait ces NES ou ces artifices de ces dispositifs appelés Jakaxiwitl, du dieu Tonatiuh, parmi les Nahuatl, chez les Nahuatl. Puis, un peu plus bas, nous avons quelque chose de vraiment intéressant encore. Avec cette langue qui sort à l'extérieur en forme de couteau en silex ou tecpatl. Les anthropologues matérialistes disent que cette langue représentait l'appétit de Tonatiuh pour le sacrifice humain. C'est une conclusion vraiment stupide, très éloignée de la réalité. La langue ici signifie que la divinité a créé, d'accord? La divinité a créé tout. Et elle continuera d'écrire tout ce qui est, tout ce qui a été, et tout ce qui sera, en utilisant quoi? En utilisant la parole, le verbe. C'est pour cela que dans la Bible, Saint Jean déclare, au début était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Et sans lui, rien de ce qui est n'aurait peut être fait. Vous vous rendez compte de ce que déclare Saint Jean. Au début était le verbe, et le verbe était avec Dieu. Et le verbe était Dieu même. Il n'est donc pas étonnant que, selon la culture nahuatl, ces mêmes paroles sont représentées dans les calendriers aztèques par la langue. Chez les Hébreux, nous avons Sabaoth. Sabaoth est le seigneur des armées. Le seigneur de l'armée de la voix. C'est pour cela que chez les Aztèques, nous avons aussi le symbolisme de la langue sortant de l'extérieur en forme de couteau, en silex, pour représenter le pouvoir du verbe. Parce que tout fut créé au commencement par la parole, par le verbe. Si nous lisons la Genèse du Popol Vuh, il est dit « Et alors, ils parlaient, et l'univers se créa. Ils, les yeux, ils parlèrent, et l'univers se créa. » Ne nous étonnons pas donc de voir ici Tonatiuh avec une langue pour représenter le pouvoir de la parole, le pouvoir de la divinité à travers la parole. Alors nous devons prendre soin de ce que nous parlons, des paroles que nous choisissons d'utiliser. Bien. Sur cette langue, nous pouvons voir des riffs. Pourquoi? C'est pour nous montrer le pouvoir de la parole si nous voulons unir si nous voulons nous unir à la divinité. Certains déclarent, oui, oui, j'accepte Jésus-Christ, oui, j'accepte la divinité. Mais ce ne sont que des paroles, des mots, importés par les vents, c'est tout. Nous devons faire des actions qui nous unissent à la divinité. Nous déclarons, oui, je t'accepte Christ, je t'accepte mon Dieu, dans ma vie, dans ma cœur, dans mon âme. Mais nous frappons nos enfants, notre épouse, nous les maltraitons, nous leur disons des paroles dures et cruelles, nous n'apportons pas assez d'argent dans les foyers pour qu'existe là-bas l'harmonie. Alors, en agissant ainsi, faisons-nous là des choses qui nous rapprochent de la divinité? Nous ne faisons rien si nous sommes étudiantes et que nous n'étudions pas, si nous n'accomplissons pas nos devoirs de fils. Si nous n'accomplissons pas nos devoirs envers nos frères et sœurs, si nous n'accomplissons pas nos devoirs des parents, des pères, des mères, des citoyens, comment voulons-nous nous rapprocher de la divinité? Cette langue sur laquelle nous voyons les rives nous montre que la parole a beaucoup de pouvoir. La divinité a créé par la parole, par les verbes. Et si nous voulons nous unir à la divinité, si nous voulons faire une petite passe pour nous unir à cela, cela qui n'a pas de nom, nous devons faire attention à notre parole. Nous ne devons pas dire des grossièretés. Nous ne devons pas maduire. Nous ne devons pas dire des paroles dures. Nous ne devons pas parler par sous-entendus. Ne pas dire des mensonges. Mensonges. Tout cela est difficile, mais c'est le schéma qui nous est montré ici. Nous y voyons aussi un œil pour cette langue, dans cette langue, un œil avec un petit fil. Cela nous montre qu'il faut que nous surveillions beaucoup tout ce que nous disons. Surveiller ce que nous disons. Si nous voulons avoir du succès dans nos affaires, nous devons faire attention à notre parole, à nos paroles. Santiago, le majeur, Jacques, l'apôtre Jacques, l'ancien, disait « D'une sorte, s'il ne peut sortir une eau cristalline et en même temps, une eau empoisonnée, ou l'eau est cristalline, ou elle est envenimée. » Nous voulons marcher sur le bon chemin. Nous voulons que nos mantras fonctionnent. Et nous, en même temps, nous disons des mensonges. En même temps, nous faisons des histoires sur les personnes. Nous portons des rumeurs partout. Nous critiquons les autres. Dans ces cas-là, quel pouvoir peut avoir notre parole, notre verbe? C'est pour cela qu'il faut nous surveiller. Il faut être attentif. C'est pour cela que l'on voit sur cette langue en forme de couteau, en silex, de tonature, cette huile. Pour nous montrer l'importance du sens de l'auto-observation que nous devons avoir avec nos paroles, avec notre verbe et dans chaque moment de notre vie. Auto-observation de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions. Ainsi, alors oui, nous pourrons marcher sur le chemin vers la divinité. Trois choses nous séparent de la divinité. Le Père est vérité. Alors, si nous mentons, nous nous séparons du Père. Le Fils est amour. Si nous haïssons, nous nous séparons de la divinité. L'Esprit Saint est le pouvoir. Et si nous abusons de nos énergies, nous nous séparons du troisième logos, de la divinité. Voilà ce que tout cela représente. Nous ne devons pas mentir, haïssir et abuser de nos énergies créatrices. Les peuples basses, un peu plus basses, dans ce calendrier aztèque, nous pouvons voir un collier formé par des pierres précieuses, appelé Xalchihuitl par les Aztèques. Ces colliers merveilleux symbolisent les vertus de l'âme, les vertus que nous devons développer en nous. Comme la patience, l'humilité, la diligence, l'amour, la joie pour les biens d'autrui, toutes ces vertus de l'âme qui font que nous sommes des humains véritables, eh bien, de nos jours, nous sommes inhumains. Nous sommes des personnes avec 97% d'erreurs. Et parfois avec un peu plus de défauts psychologiques. Mais chaque défaut psychologique détruit fait naître quoi? Chaque défaut psychologique détruit fait naître une vertu, une pierre précieuse. Ne croyez pas que c'était par orgueil que ces collières de pierres précieuses étaient offertes. Non. C'était le symbole de tout ce travail qui devait être fait dans ces cases de vertus que nous devons développer en nous. De créer pour nous rapprocher de cela qui n'a pas de nom. Voilà ce que représentent ces collières de pierres précieuses. Ensuite, nous voyons des oreillettes. C'est très intéressant parce qu'elle nous montre qu'il faut apprendre à écouter la voix du Père, la voix de la divinité. C'est ce que l'initié Blavatsky nous dit dans son livre La voix du silence. C'est exactement cela, la voix du silence, la voix de notre Père. Le Père, à notre intérieur, l'esprit, l'être, ne communique pas avec nous par les voix que nous entendons. Et c'est lui qui entend des voix, nous pouvons les considérer comme inspirantes en révision médicale. Car ces voix ont une révision psychologique, psychiatrique. Car ces voix que nous pouvons entendre dans notre tête ne sont pas les voix du Père, non. Ce ne sont pas les voix de l'intime, non. Les voix du Père ou la voix de l'intime se manifestent par des coupes de cœur. Coupes de cœur! Par des intuitions, par des intuites, comme les appelait le philosophe allemand Emmanuel Kant. Intuition, des intuites. Bien, les intuitions sont des messages qui viennent des mondes supérieurs qu'il faut apprendre à écouter. Il faut arrêter d'écouter notre mental parce que c'est à cause de notre mental que nous persévérons dans la misère et dans les souffrances. Il faut apprendre à écouter notre cœur. Il faut écouter la voix de l'intime. Et ces grandes boucles d'oreilles que les Aztèques mettaient comme ici sur les Yutunatiu, les gigantesques boucles d'oreilles nous indiquent qu'il faut apprendre à écouter la parole, la connaissance. Connaissance en grec ancien, c'est l'arnos, l'arnos. Il faut écouter, mais avec le cœur, qu'il faut la vibrer, et n'est pas seulement la théoriser. Il ne faut pas seulement lire des tons de livres, mais il faut étudier avec notre cœur. Et c'est ce que nous disent précisément ces boucles d'oreilles que nous voyons là. Nous pouvons remarquer encore le signe tétragramaton. Encore une fois, nous avons les cercles qui représentent l'absolu, et de ces cercles descendent les trois forces primaires de la nature et du cosmos pour se manifester dans la création. Voilà ce que représentent les boucles d'oreilles du Dieu de nature. Comme nous pouvons l'observer, chaque symbole du Dieu de nature est le symbole, la représentation de l'attribut de la divinité. Ce symbole nous donne un cœur magistral sur la divinité. Nous, qui avons une idée fausse, une idée occidentale, occidentale de la force de la divinité. On croit très souvent que Dieu est en petite vue, assis sur un trône au-dessous des nuages, qui envoie des éclairs et des coups de tonnerre à la pauvre fourmilière humaine. Nous avons en effet anthropomorphisé Dieu. Anthropo voulant dire homme et morpho voulant dire forme. Nous lui avons donné la forme d'un homme masculin, ce qui veut dire que nous n'avons même pas vu les aspects masculins et féminins de la divinité. En fait, nous marchions sur le chemin de l'amertume en ayant cette fausse idée sur la divinité. Il vaut donc la peine d'approfondir cette sagesse nahuatl pure et d'apprendre un peu plus sur tout ce qui nous entoure et nous dirige. Tout autour de ton nature, tout autour de ces verbes de Saint-Jean, tout autour du symbole de la divinité ici sous calendrier aztèque, nous voyons les erres, les sages cosmogoniques. Les époques qui nous précédèrent comme humanité, car il est évident que nous ne sommes pas la seule race humaine qui existe et qui a existé sur cette planète Terre. D'anciennes races humaines ont été en effet sur notre planète, et cela nous est montré par les pyramides, par les constructions gigantesques que l'on voit au Pérou, au Mitla, ici, dans notre pays de Mexique, et dans plusieurs autres parties du monde. Des constructions en pierre gigantesques. Cela nous indique une technologie très supérieure à la nôtre, à celle que nous avons de nos jours. On existait donc d'autres races cosmogoniques et les Aztèques les représentèrent par des soleils, car les légendes des cinq soleils, voilà ce que nous disent les Aztèques. Nous voyons les fils du premier soleil, appelé Ocelotl-Tonatiuh, représenté ici par Tonatiuh. Tonatiuh est centré, et autour nous voyons les symboles Olin, ou les symboles du mouvement, parmi les Aztèques. Dans chacun de ces petits carrés, symboles de mouvement, elle représentait les symboles d'une race humaine antérieure à la nôtre. Nous, dans la Gnose, nous les appelons la race polaire, la race hyperboréenne, la race lémur et la race atlante. Chacune de ces races eurent leur période de splendeur. Nous autres, en ce moment, nous formons la cinquième race humaine. Nous sommes les fils du cinquième soleil. Et nous sommes sur le point de périr. Comme cela est montré sur le calendrier aztèque par les feux et les tremblements de terre. C'est la prophétie du calendrier aztèque pour les fils du cinquième soleil, formés par tous les êtres humains de toute la terre actuelle. Nous venons d'étudier la première cercle où se trouve Tonatiuh, la première cercle au centre du calendrier aztèque. Nous allons maintenant étudier le deuxième cercle où se trouvent les serres ou les époques cosmogoniques. Nous allons étudier chacun de ces symboles pour nous donner une idée de l'objectif que nous avons, nous, ici, sur Terre, puisqu'il est évident que nous ne sommes pas venus sur Terre uniquement pour naître, grandir, travailler, comme des petites ânes, pour nous reproduire, comme des petits animaux, pour vieillir et pour mourir, finalement. Non, ce n'est pas du tout l'objectif de notre vie. Nous pouvons observer que de chaque côté du visage de Tonatiuh se trouvent les griffes écrasantes des cœurs humains, n'est-ce pas? Il est sûr que si nous étudions, par exemple, la maçonnerie primitive, nous pourrons nous rendre compte qu'il parle du salut de la griffe. Le salut de la griffe est représenté ici par ces griffes qui écrasent des cœurs humains. Dans ce cas-là, les cœurs humains représentent les passions humaines. Les passions humaines comme la luxure, l'orgueil, la colère et toutes ces passions qui inondent les êtres humains, nos cœurs. Le symbolisme de ces griffes qui écrasent les cœurs humains signifie la mort des passions et des péchés, la mort de celui qui est candidat à l'initiation, la mort de ses passions animaux, de ses péchés, celui qui veut marcher sur les sentiers de la vérité. Si nous voulons véritablement marcher sur le chemin qui mène à la vérité, nous devons incontestablement en finir avec nos passions humaines. Nous devons détruire tous les éléments psychologiques indésirables que nous portons en nous, car ceux-ci ne sont pas acceptés sur les schémas et dans les écoles gnostiques. Les personnes faibles qui sont toujours en train de prôner la paix et l'amour, qui déclarent avec douceur qu'il ne faut jamais se mettre en colère, mais qui, en réalité, font tout le contraire de ce qu'ils disent, ne sont pas sur les schémas qui mènent à la vérité. Ici, nous avons besoin de femmes aigles et d'hommes aigles, chevalières, hommes tigres et femmes tigres, chevalières tigres. Nous avons besoin d'actions déterminantes et courageuses. Courageuses, chers amis, courageuses. Des personnes avec une volonté véritable, appelée dans l'arnos, comme Téléma, qui veulent lutter contre qui? Contre ses voisins, contre ses enfants, ses pères, non mes amis, mais contre eux-mêmes, car l'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. L'ennemi sont nos désirs, nos péchés. Nous sommes nos pires ennemis. C'est pour cela qu'il faut écraser ce cœur humain indiquant la mort de nos défauts, la mort de nos passions. Voilà ce que cela nous montre. C'est pour cela qu'à Chichen Itza, nous pouvons voir des tigres dévorants des cœurs humains ou des aigles dévorants des cœurs humains. C'est très significatif. Nous avons besoin de la mort psychologique, de la mort de nos péchés. Nous devons en finir avec nos passions pour que notre intime puisse nous dévorer, nous consumir, pour devenir un, pour que l'esprit universel de vie puisse nous dévorer. C'est pour cela que nous observons ici encore une fois l'huile de l'auto-observation psychologique, dans les riffs. Nous avons tendance à observer les autres et nous sommes très fortes pour cela. Mais cela ne sert à rien. Cela nous rend faibles. Ce que nous devons faire, c'est de diriger notre attention vers notre propre intérieur, c'est l'auto-observation. Observer ce que nous sommes vraiment. Observer nos attitudes, nos actes, nos pensées, nos émotions. Il faut observer notre monde psychologique intérieur pour découvrir ce que nous sommes vraiment. À cet instant même, quels sont les défauts qui sont en train de se manifester en nous? Peut-être la paresse, la fierté mentale, la distraction peut-être, ou un tout autre défaut. Sommes-nous vraiment attentifs? Sommes-nous vraiment observateurs? Sommes-nous attentifs à l'enseignement? Voilà quelle est l'observation psychologique. Nous ne pourrions pas douer nos passions animales, nos passions humaines. Nous ne pourrions pas en finir avec nos défauts psychologiques sans les observer premièrement, sans l'auto-observation. Nous devons diriger notre attention dans notre intérieur pendant notre vie, de tous les jours, sans arrêt, à chaque instant. À l'école, à la rue, au travail, dans notre maison, en observant la télévision, dans la voiture, etc., etc. Alors, nous parlons d'un changement. Nous parlons d'un changement. Nous parlons d'une transformation. Nous parlons d'une révolution. Cette révolution est naître. Transformer nos énergies créatrices. Cette révolution est mourir, désenterrer nos défauts psychologiques. Cette révolution est le sacrifice pour l'humanité. Partager la parole, partager l'enseignement. Eh bien, aussi nous voyons ici 5 plumes d'aigles, et c'est profondément significatif. Ces 5 plumes d'aigles nous indiquent la loi. Celui qui veut entrer sur le chemin doit être un père exemplaire, ne doit pas abandonner ses enfants pour marcher sur le chemin de l'initiation. Ce serait un contresens. On ne peut pas entrer sur le chemin de la vérité si nous ne sommes pas un bon père, une bonne mère, un bon citoyen, un bon étudiant, un bon fils, un bon frère, sœur, un bon mari, une bonne épouse. Il est nécessaire de marcher sur cette sentier avec droiture. Le sang représente dans la cabale le karma. C'est la rigueur. C'est Mars. Ce qui veut dire que nous devons suivre la loi si nous voulons marcher sur le chemin qui mène à la vérité. Suivre la loi. Suivre la loi. Les 4 carrés autour de Donatieu nous montrent les époques où furent détruites les races humaines antérieures. Parlons maintenant de chacun d'elles. Le premier carré représente le soleil jaguar, d'accord? Les Aztèques l'appelaient Ocelotl, Tonatiu. Ocelotl signifie jaguar et Tonatiu, soleil. On l'appelait aussi Naui Ocelotl. Naui voulant dire 4 et Ocelotl, tigre ou jaguar. Nous pouvons remarquer les 4 cercles représentant des dates 4 et Ocelotl ou jaguar représentant le soleil jaguar. L'ancienne sagesse, la sagesse Anahuac, Anahuac étant un des noms du Mexique antique, Anahuac. Bien. Cette race humaine fut dévorée, la première race humaine, les fils de Ocelotl Tonatiu. Cette race fut dévorée par les tigres. Le tigre, chez les Aztèques, était le symbole de la sagesse. Alors, si nous disons qu'un être était dévoré par le tigre, signifie que cette race a été dévorée par la sagesse. Cette race humaine n'a pas dégénéré. Chaque race passe par quatre âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. Alors, pendant l'âge d'or, tout appartient à tous. Il n'y a pas de tiens et des miens, il n'y a pas de frontières ni de guerres. Pendant l'âge d'argent, les choses spirituelles s'estompent un petit peu, mais les principes cosmiques universels continuent de régir. Pendant l'âge de cuivre, les frontières apparaissent, les guerres apparaissent aussi. Les tiens et les miens font leur apparition, les personnes se mettent en colère avec leur voisin, par exemple, parce que celui-ci a pris des fruits de son jardin. Et ces fruits sont miens, n'est-ce pas? C'est la race, l'âge de cuivre. Et l'âge de fer est l'âge où nous nous trouvons à notre époque, une dégénération maximum. C'est présent partout. Voilà les quatre âges par lesquels passent toutes les races normalement. Mais les fils du premier soleil, les fils de la première race, que l'on appelle la race polaire, dans l'Arnos, n'a pas dégénéré. Elle a réussi à transcender cette loi et elle a réussi à rester pure. Tous les individus de la race polaire étaient des êtres autoréalisés. Ils ne possédaient pas de feu. Ils avaient tous incarné leur propre intime, leur propre père qui est un secret. La sagesse s'est manifestée en eux. Et c'est pour cette raison qu'il est dit qu'ils se transformèrent en tigres de sagesse, qu'ils furent dévorés par les tigres. Cette race polaire a existé dans l'Aztlan aztèque, dans l'Asgard hindouiste, dans l'île de Thule, à Toyan, dans l'île de cristal, c'est-à-dire dans la quatrième dimension. Cette île existe encore actuellement, mais elle se trouve bien sûr dans la quatrième dimension. Le roi ou l'impérateur Moctezuma, parmi les Aztèques, parmi les Mexicas, voulut se rendre sur cette île et ordonna à 60 anciens de s'y rendre. Ces anciens, en utilisant ces traditions magiques, se transformèrent en animaux selon la tradition, selon les légendes, et réussirent à se rendre sur cette terre de nos anciens, dans cet endroit merveilleux primitif de la première race. Il y a de cela 300 millions d'années que cette race humaine existait encore dans les dimensions supérieures de la nature. La croûte terrestre, alors, n'existait pas encore. Ensuite, nous avons le soleil du vent, et Hecate, ton nature. Et Hecate, étant le dieu du vent, et ton nature, le soleil. Le soleil du vent. Donc, le dessin que nous voyons ici représente la masque du dieu Hecate, le dieu du vent, la masque. Le dessin nous montre cela. Et les traditions de Nahuac déclarent que cette race fut détruite par des violents ouragans. Ces mots ouragans signifient le souffle divin, la divinité. Ils incarnèrent également la divinité. Les habitants de la seconde race, la race hyperboréenne, ne dégénéraient pas non plus. Les Aztèques déclarent qu'ils furent transformés en singes pour monter dans les arbres, pour échapper de fortes bandes. Les singes représentant l'intelligence et l'arbre symbolisant l'arbre de vie. L'arbre de la vie est l'être dans toutes ses manifestations, ce qui veut dire que ces individus de la deuxième race humaine, les fils de Hecate Tonatiuh, incarnèrent chacun des parties de l'être, chacun des manifestations de leur intime, parce qu'ils montrent dans l'arbre en devenant un. Cette race se manifesta aussi dans des mondes supérieurs de la conscience. Il n'existe aucun vestige de cette deuxième race ici dans les mondes physiques. Raison par laquelle elle est appelée et elle s'est vivée autour du pôle nord, autour du pôle nord, dans une terre autour du pôle nord. Et c'est la raison par laquelle cette race est appelée hyperboréenne, puisque hyperboréenne signifie berce le nord. C'est pour cela, ou plus au nord, c'est pour cela que nous avons dit que la sagesse ne nous vient pas de l'Inde ni du Mexique seulement. Cette sagesse nous vient du nord, parce que nos pères qui nous ont précédés venaient du nord, en parlant de ces races humaines précédentes. Les habitants de la première race se trouvaient dans l'île sacrée d'Aztlan et les habitants de la deuxième race sur une terre en forme de fer du cheval ou en lettre O, tout autour du pôle nord. Ensuite vint la troisième race, le soleil des pluies et des feux. Quiahuitl, Tonatiu. Quiahuitl, qui veut dire pluie, et Tonatiu, soleil. Cette race humaine, que l'on appelait la race lémur, se dégénéra contrairement aux deux premières. Parce que les deux premières races humaines ne tombent pas dans la dégénérescence. Bien. La race lémur, eux, sont époque de splendeur, son âge d'or. Et il y a de cela 25 millions d'années. Pardon, 25 millions d'années, correct. Tout n'était que merveille. C'était le paradis, l'Éden de la Bible. Réellement, l'être humain se trouvait dans la quatrième dimension et vivait dans la félicité. Adam représente les millions et les millions d'êtres humains masculins qui existèrent dans la Lémurie. C'est précisément à ce moment-là qu'intervient la division des sexes qui s'effectua pendant des millions d'années. Passe des nuits tout le lendemain. Parce qu'au début, nous dit la Bible, Adam était en lui-même homme et femme. Et ce n'est qu'ensuite que se produisit la séparation des sexes. Et cette séparation se passa en Lémurie. Ce qui veut dire qu'Ève représente les millions et les millions de femmes de la race lémur et d'Adam les millions et les millions d'êtres de sexe masculin de la race lémur. Malheureusement, c'est faute à ce moment-là que nous avons mangé les fruits défendus. On nous avait dit « Ne mange pas de ces fruits, ne mange pas de ces fruits. » Mais nous l'avons quand même mangé, tentés par les serpents tentateurs de l'Éden. Les serpents tentateur de l'Éden est la passion animale, la luxure. Et la pomme est un symbole sexuel. Ce qui veut dire que nous avons abusé de notre énergie créatrice, de notre énergie sexuelle. Nous avons fait un mauvais usage du sexe et cela s'est passé il y a 18 millions d'années. C'est le moment de la chute. C'est à ce moment-là que nous avons été expulsés de l'Éden. Nous avons quitté la quatrième dimension pour entrer dans ce monde tridimensionnel où nous vivons toujours. Nous nous trouvons dans ce monde physique depuis 18 millions d'années et nous n'avons pas progressé. Nous allons de plus en plus mal. Les sages nahuatl déclarent que cette race lémur fut détruite par des pluies, des feux et des tremblements de terre. C'est une réalité. Des tremblements de terre et des volcans détruisirent la race humaine lémur durant 10 000 ans. Les êtres qui ne dégénèrent pas parmi ces civilisations se transformèrent en oiseaux pour pouvoir se soubert de cette hécatombe. Cette transformation en oiseaux est, selon la légende nahuatl, selon la légende aztèque, est très intéressante, car si nous étudions la culture maya, nous ne savons pas du tout ce que ces êtres sont devenus. Ils sont disparus. Certains disent qu'ils s'en allèrent par manque de la civilisation maya. Mais il n'existait aucune signe de cela. D'autres racontent qu'il y eut une épidémie de peste et que tous moururent, l'ancienne civilisation maya. Mais il n'y a aucune preuve, aucune trace de cette peste. Des cadavres, les os n'ont jamais été trouvés. Le fait est que les mayas disparurent. Ils entrèrent dans la quatrième dimension. En Bolivie, de même, une ville de Lilliputiens s'entrée aussi dans la quatrième dimension. Et ceci nous fait comprendre ces rangs sautes. Les sept qui réussirent à s'auto-réaliser, qui ne dégénèrent pas, entrent dans la quatrième dimension. Ils réussirent à se souvenir de cette hécatombe, de cette dégénérescence qui a fait vite dans la race les morts. Ainsi surgit ces races appelées le soleil de l'eau ou Atonatiu, du mot nahuatl atl, qui veut dire œil, et Tonatiu qui veut dire soleil. Pour les dates, nous avons encore une fois quatre cercles, et aussi Naui Atl est appelé ces cadres, cette image, Naui Atl, qui veut dire quatre œufs. C'est foot l'Atlantide, la merveilleuse Atlantide qui vient sur son âge d'or, son âge de merveille et de splendeur, mais elle dégénéra aussi. Après de très nombreuses années de splendeur, cette race se dégénéra, elle tomba en s'attachant avec les péchés capitaux. Ses habitants tombèrent dans le cannibalisme et dans la magie noire, puis souvent les déluges universels. Voilà ce que nous dit le calendrier aztèque. La quatrième race fut détruite par l'eau. Ce qui s'est souvert parmi la race atlante s'est transformé en poisson, selon la légende aztèque, ce qui signifie que nous devons apprendre à utiliser nos énergies créatrices pour nous mouvoir dans les eaux comme un poisson, pour pouvoir nous sauver de la destruction qui nous attend. L'Atlantide fut détruite par la déluge universelle. C'est ce qui est écrit dans tous les peuples de la Terre, dans toutes les légendes autour de la Terre. Ensuite vient le soleil du tremblement de terre. Ce soleil est représenté par ces mêmes Tonatiu. Le premier soleil est représenté par les jaguars. Le deuxième soleil est représenté par les ventes. Le troisième soleil par la pluie. Le quatrième soleil par l'eau. Et le cinquième soleil, Olin Tonatiu, est représenté par le tremblement de terre ou Naui Tonatiu. Quatre tremblements. Nous sommes les fils de ce cinquième soleil, le soleil du tremblement de terre. Nous serons détruits, selon la légende aztèque, par le feu et par le tremblement de terre. Et nous pouvons voir de nos jours qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre dans le monde et que des volcans sont en train d'entrer en activité. Les symboles du mouvement que nous avons ici, sous les quatre carrés, les demi-cercles, avec les rites de Tonatiu, les quatre points qui sont les chiffres, nous donnent toujours les chiffres 4. Les quatre mouvements, les quatre tremblements, les quatre tremblements de terre, et nous montrent aussi toutes les races antérieures qui nous sont précédées. Ensuite, nous avons les quatre points cardinaux que l'on trouve ici réunis. L'Est est en relation avec les dieux Tlaloc, dieux de l'eau, les dieux initiateurs de la vie et de la fertilité. C'est aussi là que se trouve le départ du parcours du soleil. À l'ouest, nous avons Xalchihuitl, la déesse qui collectionne les eaux dans les puits sacrés. Au nord, il y avait Mictlantecuhtli, le dieu de la mort, du pouvoir et de la force. Au sud, il y avait Xochipilli, dieu de l'agriculture, du champ et de la mort. Et son nom signifie « principal des fleurs ». Chaque point cardinal était en relation avec un dieu. L'Est ou l'Orient, où naît le soleil, est lié avec les dieux Tlaloc. L'Ouest, où se couche le soleil, avec la déesse Xalchihuitl, déesse des rivières et des mers. Le Nord, avec Mictlantecuhtli, le dieu de la mort. Et au Sud, Xochipilli, le dieu de la mort, du chant et de l'allégresse. Ils sont les symboles de chacun des points cardinaux et au milieu ou centré, nous avons Tonatiu. Dans la partie supérieure droite, nous avons cette pacte. C en nahuatl signifie un, et pacte signifie obsidienne, qui est un verre, un cristal volcanique, un verre, que les Aztèques utilisaient pour faire des coteaux ou des pointes de lance ainsi que des miroirs. Les anciens construisant de nombreuses choses avec obsidien. Donc, les sept épaves représentent le nord où se trouvent les Mictlantecas, qui veut dire les dieux des morts. Mictl signifiant morte et tlamp, lieu. C'est là que se trouvent les morts, que se trouve le seigneur de la mort, Mictlantecutli, que nous venons de voir. C'est le point cardinal nord. Cette pierre, cet obsidien, représente aussi le mystère du facteur naître, premier facteur de la révolution de la conscience, montrant le travail de la pierre de route. Voilà ce que nous montre le point cardinal. Nous avons ensuite le symbole de l'Est, qui est très important, parce que c'est le Siu Huitzoli, qui est un attribut funéraire. C'est en effet un attribut que l'on mettait au guerrières qui mouraient. On les plaçait dans leur tombe pour nous rappeler les morts du moi, les morts de l'agrégat psychique, les morts de nos péchés. Si pour le premier point cardinal nous parlions de naissance, ici nous parlions du facteur mourir, qui est la destruction, la mort de nos défauts psychologiques. À l'est se trouvait Tlacopa, qui est l'endroit de la lumière. Parce que c'est à l'est que se trouve, que s'élève le soleil, qui commence son parcours. Dans cette maison du soleil allaient tous ceux qui mouraient sur les champs de bataille. Ce que nous disent les poèmes nahuatl est vraiment très intéressant. Ils nous disent que si les bloquières avec lesquelles nous allions sur les champs de bataille n'avaient pas de trous faites par les flèches de nos ennemis, nous ne pouvions pas voir à travers eux le soleil. Ce sont vraiment des poèmes ésotériques. En effet, ceux qui mouraient sur les champs de bataille, c'est-à-dire ceux qui désenterrèrent leurs défauts psychologiques, ceux qui mouraient nous-mêmes, ceux qui réussirent à vaincre la réalité psychologique dans leur vie, vont de ce fait dans la maison du soleil. À l'est se trouve le Tlalocan, le paradis de Tlaloc, puisque nous avons dit que l'est est en relation avec le dieu Tlaloc. Puis nous avons le sud représenté par Tsekiahuitl, Tse voulant dire un, et Kiahuitl, pluie. C'est le lieu de Huitzlampa, le lieu de Sepin, l'endroit de l'autosacrifice. Cet autosacrifice est le travail que nous devons faire pour avancer. Et ne pensez pas qu'il se transperce la langue avec des lances, avec des épines. Bien sûr que non. Il ne s'agissait aucunement de violence contre leur corps physique. Cela représente simplement qu'il fallait faire attention à notre verbe, à notre parole. De même, ne pense pas non plus qu'il se transperce les sexes. Non, cela représente simplement la domination que nous devons avoir sur nos passions animales. Voilà comment est représenté l'autosacrifice. Le sud, l'endroit de la pluie bienfaitrice, celle qui donne vie à tous les créés. C'est pour cela qu'elle représente le troisième facteur de la révolution de la conscience. Voilà donc comme sont représentés les trois facteurs de la révolution de la conscience. Et à l'ouest, nous avons les Chicoas Osomatl. Chicoas voulant dire sept en nahuatl, et Osomatl voulant dire singe. Les sept singes. Donc, l'ouest est l'endroit où se couche le soleil, où meurt le soleil. C'est l'endroit où se trouve Cihuatlampa. Souvenez-vous de Ometecutli et Omecihuatl, le seigneur et la dame de la dualité, dont nous avons parlé au début de cette conférence. Eh bien, nous avons de nouveau le terme Cihuatl, qui signifie femme ou dame. Alors, Cihuatlampa signifie la région des femmes, l'endroit des femmes. Et ça, c'est que représente là, avec sagesse, les femmes qui mouraient en couche. Les femmes qui mouraient en couche allaient au Sincalco, la maison du maïs, qui se trouve précisément à l'ouest. Et les Aztèques avaient tout à fait raison. Lorsqu'une femme donne la vie durant l'accouchement, elle donne sa vie pour qu'une vie soit donnée. Celui qui donne un dharma incroyable pour ces femmes, pour ces mères. C'est pour cela que cette femme va au Xicalco. D'ailleurs, c'est de là que vient cette fameuse légende du Mexique de la pleureuse. Les Cihuateo sont les femmes qui meurent en couche et dont s'est fait un grand dharma parce qu'elles ont donné leur vie pour donner la vie à son bébé. Le numéro 7 nous indique l'ordre, l'équilibre. Si nous parlons des trois points cardinaux qui représentent le naître, le mourir et le sacrifice pour l'humanité, le 7 nous montre l'équilibre. Le 7 nous montre qu'il faut avoir un équilibre dans les trois facteurs de la révolution de la conscience pour pouvoir avancer d'un pas ferme et décider sur le chemin qui nous mène à la vérité. Chers amis, nous sommes appelés à ouvrir les codex de la Nahuac, des Aztèques. Nous devons apprendre la sagesse de notre Seigneur Quetzalcoatl et nous vous invitons à continuer à approfondir la connaissance de cette sagesse merveilleuse que nous donne le calendrier aztèque. Les images de la conférence que nous venons de faire viennent du livre fait par tous les instructeurs de l'Institut culturel Quetzalcoatl et que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre website. Son titre est « Les messages mystiques de la pierre du soleil ». Ce livre contient toute une bibliographie de tous les livres sous maître Samael Ombeor et un regard ses sujets. Chers amis, nous venons donc de voir la première partie et dans cette conférence. Nous avons vu à peine 12 cercles de ce calendrier aztèque. Les cercles de Tonatiuh et le cercle des cerfs cosmogoniques, ainsi que les quatre points cardinaux avec les griffes de l'aigle. Dans la prochaine conférence, nous allons voir et étudier les rois des jours, c'est très intéressant, et les autres caractéristiques. Chers amis, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. À bientôt.